Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est ignorer qu'on ne réforme un pays que par un projet partagé, par un élan volontaire auquel le peuple adhère, par une volonté de fédérer les énergies, par une méthode fondée légitimement sur la résolution politique, mais aussi sur la capacité d'écoute et la recherche des compromis nécessaires. Pour ce qui nous concerne, nous sommes pour le pays prêts à toutes les hypothèses, avec pour boussole politique l'intérêt de la France, le bonheur des Français, et donc vers le projet refondateur de rendre le pouvoir au peuple. Voilà, mesdames et messieurs, je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet ou sur d'autres.
Bonjour Madame Le Pen, c'est Lucie Tassine pour BFMTV. Une question sur la méthode qu'a évoquée le président de la République, notamment sur le prochain texte à venir. Il a expliqué qu'il comptait en gros découper en rondelles certains textes et voter avec différentes majorités. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas finalement? Hier soir, vous avez voté, en tout cas votre groupe a voté un texte sur le nucléaire.
Un texte, une logique, une cohérence, une vision, une projection. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller découper un texte en petits morceaux pour essayer de le faire voter un petit morceau avec une partie de l'hémicycle, un petit morceau avec l'autre? Mais c'est, encore une fois, une perte totale de cohérence politique. Et puis, c'est surtout un terrible aveu d'échec. Non, on construit une majorité sur, encore une fois, un texte, une vision, une volonté. Pas en découpant des moitiés de phrases, en se disant, bah, tiens, cette moitié de phrase, je vais peut-être réussir à la faire voter par le PS, et puis cette autre moitié de phrase, je vais essayer de la faire voter par ce qui reste de LR, c'est-à-dire pas grand-chose. Je ne sais pas à quoi il fait référence. Écoutez, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a comparé la foule, c'est-à-dire les manifestants, dans leur ensemble, à ce qui s'est déroulé au Capitole, à ce qui s'est déroulé au Brésil. C'est-à-dire qu'en réalité, il a un propos extrêmement contradictoire. Il dit qu'il respecte, mais il insulte. Et il insulte tous les Français, globalement. Tous ceux qui, pourtant, en vertu du respect de la Constitution, manifestent, y compris, évidemment, ceux qui manifestent pacifiquement, ou ceux qui, respectant ainsi la Constitution, sont en grève. On voit qu'en réalité, il exprime, il a en lui une colère qu'il n'arrive pas à maîtriser à l'égard de ceux qui sont en désaccord avec lui, à l'égard de ceux qui en appellent à la démocratie, à l'égard de ceux qui considèrent comme anormal que nous ayons été privés de la capacité de débattre de ce texte en raison du véhicule législatif choisi par le gouvernement, de ceux qui considèrent que nous avons été de fait privés de vote sur les articles peut-être les plus essentiels de cette réforme des retraites, et notamment l'article 7, mais pourquoi pas également l'article 12. De ceux qui considèrent qu'il est honteux qu'il y ait eu un vote bloqué au Sénat. De ceux qui considèrent qu'on ne peut pas changer les règles du jeu lorsque vous allez échouer. Lorsque le texte que vous avez présenté, expliqué maintes fois avec les mêmes éléments de langage, d'ailleurs, qu'on retrouve dans la bouche de M. Dussopt, de la Première ministre ou du Président de la République, vous avez échoué à convaincre, et que donc l'Assemblée nationale s'apprêtant à s'opposer à ce texte, ce qui est la règle du jeu en démocratie, eh bien, vous rompez d'un coup avec cette règle du jeu, vous violez le processus démocratique, en imposant ce texte par l'intermédiaire du 49.3. Donc tous ceux qui sont opposés à cette manière de faire sont rejetés en quelque sorte dans le camp des factieux ou des factions. Mais dites-moi, ça fait du monde quand même. Ça fait 90% des actifs. Ça fait 70% du peuple français. Et ça fait une majorité des députés à l'Assemblée nationale.
Juste pour bien comprendre, est-ce que vous êtes favorable aux manifestations qui n'ont
fait l'objet d'une enquête par l'IGPN, c'est qu'il mérite évidemment à l'évidence de faire l'objet d'une enquête par l'IGPN. Voilà, moi je n'ai jamais considéré qu'il ne pouvait pas y avoir d'actes qui soient condamnables de la part d'un tel ou d'un tel. Mais ils sont en règle générale poursuivis et condamnés. Je crois que c'est d'ailleurs le corps de fonctionnaires qui est le plus contrôlé et qui fait l'objet du plus d'enquêtes ouvertes. Bon. Donc il faut se réjouir que la justice fasse son travail. Quant à aux manifestations, enfin pardon, autorisées, non autorisées, on est là quand même dans un niveau qui n'est pas celui du débat qui se pose au pays aujourd'hui. Le débat qui se pose aujourd'hui au pays, c'est que nous avons un président de la République qui, plutôt que de venir expliquer qu'il avait compris que cette réforme était une réforme qui allait toucher chacun des Français, qu'il entendait que la majorité des Français y était opposée et que l'ensemble de l'Assemblée nationale, que la majorité de l'Assemblée nationale y était opposée, eh bien, il ne pouvait pas maintenir cette réforme en l'état, qu'il fallait faire autre chose. Et autre chose, encore une fois, il n'y avait pas 50 possibilités, c'est le référendum ou la dissolution. Et moi, je suis frappé de voir, je vous le dis franchement, un certain nombre de journalistes avoir repris, sans aucun recul, les arguments du gouvernement consistant à dire « Ah oui, mais alors, vous comprenez, ils votent une motion de censure, mais ils ne peuvent pas faire de gouvernement commun. » Mais ça n'est pas du tout le sens de nos institutions. Ça n'est pas du tout le sens de la motion de censure. Enfin, je rappelle que le sens du vote d'une motion de censure, c'est d'exprimer la censure du gouvernement. Dans ces conditions, la Première ministre est contrainte de déposer sa démission et le président de la République a le choix, soit de nommer un nouveau Premier ministre, soit même, éventuellement, renommer le Premier ministre qui a démissionné. Voilà, c'est ça. Personne d'autre que le peuple français ne décide quelle majorité va sortir des urnes. Personne.
La motion de censure n'a pas été adoptée.
Non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, l'argument qui a été utilisé par le gouvernement et repris par des journalistes, c'est de dire, ah mais de toute façon, même si la motion avait été votée, ils n'ont pas de majorité. Ensemble, c'est la carpe et le lapin. Mais ça n'est pas du tout le sens de nos institutions. Enfin, pardon, on ne peut pas rajouter à nos institutions ou inventer des institutions qui n'existent pas.
Oui.
Et au moment des Gilets jaunes, en décembre, nos institutions ont été en danger. Nos institutions ont été en danger. Oui, oui. Il y a un soir de décembre où le président de la République a craint, je crois que chacun l'a exprimé d'ailleurs à ce moment-là, que des manifestants ne s'en prennent à nos institutions et notamment en cherchant à forcer les portes de l'Élysée. J'ai fait un courrier ce soir-là et j'ai exprimé à tous ceux qui ont envie de m'écouter qu'il m'apparaissait essentiel de préserver les institutions. Je crois avoir, de ce fait, probablement, peut-être contribué à faire baisser le niveau de tension qui existait. Je suis allé en septembre voir Elisabeth Borne et je lui ai dit, compte tenu de la situation d'inflation, la situation auquel est confronté les Français, le prix du carburant, les TPE-PME qui vont fermer à cause du prix du carburant, la guerre en Ukraine et les conséquences sur les difficultés d'approvisionnement, eh bien, si vous mettez en œuvre cette réforme de retraite comme vous entendez le faire, alors je considérerais que vous êtes l'unique et seul responsable du feu que vous mettrez dans le pays. Et vous en assumerez les conséquences. Je ne jouerai plus aux pompiers. Voilà. C'est très simple. Vous voyez, moi, j'ai encore une fois une qualité. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis.
Quand le président dit « je ne cherche pas à être élu, je ne peux pas constitutionnellement, je cherche l'intérêt supérieur du pays, je suis prêt à endosser l'impopularité », comment est-ce que vous avez perçu ce passage-là ?
Oui, mais que peut-il dire d'autre ? C'est l'argument, l'argument ultime consistant à dire bah, « tout le monde est en désaccord, c'est parce que ce que je fais est courageux ». Non, tout le monde est en désaccord parce que ce que vous faites est inutile, brutal, inefficace, et injustifiée. Non, non, je, de, non. D'ailleurs, je voudrais peut-être ici briser la légende qui est répétée ad nauseam, là encore, par un certain nombre de journalistes ou d'éditorialistes consistant à dire « Ah, ce président, il prend son risque ». Ah bon, mais quand il a pris son risque ? Quand s'est-il une seule fois mis en danger ? Quand a-t-il pris une seule fois le moindre risque ? Jamais. Zéro. Voilà, zéro. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout en espérant la dissolution, parce que je pensais que le moment le nécessitait, revenir au peuple, je savais pertinemment qu'il ne le ferait pas. Parce que s'il avait choisi la dissolution, il en serait sorti probablement lui aussi étrillé. Et qu'il n'a jamais, vous m'entendez, jamais pris aucun risque. Et contrairement à ce qu'il dit, il a toujours pensé à son confort personnel, au renforcement de son pouvoir personnel, et jamais, au grand jamais, à l'intérêt supérieur du peuple.
Oui ? On ne vous voit pas dans les manifestations depuis le début de la protestation. Est-ce que vous espérez que demain, tout de même, la manifestation soit la plus massive possible pour la...
Alors, je peux venir chaque semaine vous dire exactement la même chose, ça ne me dérange pas. Il paraît que la politique, c'est l'art de la répétition. Donc, vous voyez, je peux le faire. Je soutiens, bien entendu, les Français qui expriment dans la rue leur opposition, sans violence, de manière pacifique, à cette réforme des retraites. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. J'ai expliqué 100 fois pourquoi je ne manifestais pas, parce que je crois que notre rôle à nous, députés, c'est d'être ici, c'est de mener le combat ici. Je vous rappelle qu'au début du texte, on nous avait expliqué que le texte passerait, qu'il n'y avait aucun problème, et je vous avais dit non, nous avons un travail à faire pour convaincre chaque jour qui passe, chaque argument, chaque plateau de télévision, mais aussi peut-être chaque conversation que nous avons avec nos collègues, est un moyen de pouvoir convaincre et trouver une majorité pour s'opposer à ce texte. Je crois qu'on a plutôt bien travaillé, puisqu'il y avait une majorité à l'issue de cette seconde lecture pour voter contre ce texte. Vous voyez, donc c'est la conjonction de ces forces, si je puis me permettre, les syndicats dans leur rôle, le peuple qui exprime son mécontentement comme la Constitution lui permet de le faire, et les députés qui font le travail pour lequel ils sont élus, qui auraient dû entraîner l'échec de ce texte, si encore une fois le président de la République n'avait pas foulé aux pieds et l'esprit des institutions et surtout les fondements de la démocratie.
Léonard Attal, PHMSI, à nouveau, le président l'a dit, et certains Français, c'est vrai, sont inquiets par le blocage notamment dans les raffineries. Lui dit qu'il veut un retour à la vie normale et la fin des blocages. Est-ce que ce n'est pas aussi ce que vous souhaitez à terme?
Oui, vous arriverez toujours sur une toute petite chose à trouver un positionnement commun. Mais c'est le positionnement de tous les Français, ça. La réalité, c'est que tous les Français souhaitent qu'il y ait des manifestations pacifiques, mais qu'il y a très peu de Français qui soutiennent la violence, à part quelques représentants d'extrême-gauche. Il y a très peu de Français qui souhaitent paralyser l'économie du pays. Il y a très peu de Français qui souhaitent être les victimes, en réalité, expiatoires, de l'entêtement du gouvernement de vouloir maintenir cette réforme des retraites. Vous voyez, donc la loi, toute la loi, pour le coup. Mais lorsque les blocages ont une conséquence importante sur l'activité économique du pays ou lorsqu'elles entraînent un problème sanitaire pour les Français, oui, je pense qu'il faut ne pas mettre nos compatriotes inutilement ou notre économie inutilement en danger.
Comment expliquez-vous que votre motion de censure n'ait pas recueilli plus de 100 voix ?
Bon, parce que nous sommes confrontés à quelques groupes politiques qui sont d'un sectarisme inouï et qui pensent à leur intérêt personnel plutôt qu'à l'intérêt supérieur du pays. Mais vous savez, pour vous faire une confidence, nous avions déposé cette motion de censure comme un petit peu pour une ceinture et bretelles. Voilà. Parce que nous savions que la motion de censure de Liotte allait être celle qui allait réunir le plus de voix, ce dont nous nous réjouissions d'ailleurs. Mais on ne pouvait pas imaginez qu'il n'y ait pas une motion de censure de sécurité. Car si Liotte, j'en sais rien, avait décidé à un moment donné de retirer sa motion, on se serait retrouvé sans plus aucune motion de censure. Donc ça ne nous pose aucune difficulté.
comprenne pas la capacité d'une manifestation à partir du gouvernement.
Je pense que le signal serait quand même assez contraire à l'esprit de la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, si je me lançais, je vous dirais bien ce que je pense qu'il va advenir. Oui, mais bon, j'enfile ma tenue de Madame Irma. Mais il y a quand même de grandes chances, je vais rester quand même prudente, mais il y a de grandes chances que le président de la République procède à une dissolution d'ici quelques semaines. C'est-à-dire après des semaines de blocage, après des semaines de violence, et que du coup, il donne crédit à ces blocages et à ces violences, alors qu'il aurait dû tirer leçon de la majorité de l'Assemblée nationale qui souhaitait le rejet du texte et de la motion de censure votée et à qui il manquait 9 voix pour dire, compte tenu de la situation, je procède à un remaniement. Eh bien, il attendra qu'il y ait des violences, qu'il y ait des blocages pour procéder au remaniement. Et il se passera ce qui se passe depuis des années, c'est-à-dire qu'une partie des Français diront « Ben donc, on n'obtient rien par la démocratie et on obtient par l'expression de la violence dans les rues ». Ça n'est pas un bon signal, mais ça n'est pas une bonne manière de gouverner. Remaniement, pardon. J'ai dit dissolution, je me suis trompé, pardon. Remaniement, excusez-moi. Non, dissolution, il ne fera pas. Oui, je pense que d'ici quelques semaines, il fera un remaniement. Et ce sera entendu comme étant la conséquence des violences.
Il a évoqué une loi de travail à venir. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ?
Anne Masserin.
Qu'est-ce qu'il devrait alors y avoir dans une loi de travail pour redonner espoir aux Français aujourd'hui ?
Ben dans une loi de travail, il faudrait qu'il y ait la proposition que nous avons développée pendant la campagne présidentielle, à savoir la mise en œuvre de ce donnant-donnant avec les entreprises, qui consiste à dire aux entreprises, écoutez, si vous augmentez de 10% tous les salaires jusqu'à 3,5 fois le SMIC, eh bien, nous n'augmenterons pas les cotisations patronales qui sont liées à cette augmentation. Parce qu'il faut, évidemment, au moment où nous nous parlons, une augmentation des salaires, elle est nécessaire, mais pas seulement une augmentation du SMIC, qui au passage n'est pas une augmentation, c'est juste le rattrapage de l'inflation. Bon, il s'est quand même accordé beaucoup de qualité, mais la réalité, c'est que ça n'est que l'inflation. Mais aussi tous les salaires de la classe moyenne, qui sont aujourd'hui, qui est aujourd'hui la grande sacrifiée, en réalité, cette politique économique. Il faudrait mettre en place une politique économique qui permette, et une politique du travail qui permette le retour de la productivité du travail, c'est-à-dire en réalité des produits, des emplois à haute valeur ajoutée, et arrêter l'ubérisation de la société. Ça veut dire qu'il faut réindustrialiser, mais quand je l'entends parler de réindustrialisation, permettez-moi tout de même de vous rappeler que quand on réindustrialise, il faut augmenter de manière relativement massive les capacités énergétiques, et notamment les capacités électriques. Or, dans les projections et les ambitions qui ont été données à RTE d'ici 2050, c'est encéphalogramme plat en termes de production d'électricité. Ça veut dire qu'en réalité, le président de la République parle de réindustrialisation, mais il sait qu'il ne le fera pas. Et on sait qu'il ne le fera pas, d'ailleurs, quand on voit le montant absolument minime qui avait été accordé aux réindustrialisations dans le plan de relance. Il me semble que c'était à peine 1 milliard. Voilà. Il faut évidemment mettre en place des mesures pour contrer la concurrence internationale déloyale, parce que c'est aussi une manière de protéger la production. Puis il faudrait peut-être une grande conférence sociale, c'est ce que j'avais réclamé lors de la campagne présidentielle, qu'un des premiers actes soit précisément une grande conférence sociale. Or, c'est exactement l'inverse qui a été choisi, c'est le mépris des syndicats, c'est le refus de discuter avec eux, et j'en passe. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne fera rien de tout cela. Il continuera à être dans cette folie de la flexibilité, du travail partiel, de la précarité, parce qu'en fait, la précarité, c'est paradoxal, hein, mais ça fait baisser artificiellement les chiffres du chômage. Ouais, il suffit de travailler 2 heures par jour et vous sortez des chiffres du chômage. Et ça avantage monsieur le maire et monsieur Macron qui peuvent claironner que le chômage a baissé alors qu'il reste 5 300 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Et dont personne ne se pose la question de savoir pourquoi elles y sont inscrites si vraiment il n'y a pas de problème et qu'elles ont un travail. Et...
On a appris ce matin dans le camp qu'un député Joris Ebrard avait inauguré dans le Vaucluse une mosquée financée par la Turquie. Est-ce que vous étiez au courant ou qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors je n'étais pas du tout au courant. C'est une initiative personnelle de ce député que je désapprouve. Très clairement. Nous verrons, nous en discuterons avec nous. Vous savez, c'est un peu comme avec le fisc. Hein. Il y a le droit à l'erreur. Quoi. Mais c'est une fois, je crois.
C'est deux erreurs, en l'occurrence, sur ce député. Qui est séparé de ses collaborateurs.
Ah, si vous voulez, s'il s'en est séparé, il a réparé l'erreur.
Une question.
Merci beaucoup.
Voilà pour cette conférence de presse de Marine Le Pen en direct de l'Assemblée nationale qui a duré un peu plus d'une demi-heure, où elle tire évidemment à boulet rouge sur Emmanuel Macron après avoir entendu son intervention dans deux JT de 13h. On va y revenir très largement, bien entendu. Deux mots hein, pour vous résumer, si vous avez pris l'intervention en cours de route. Elle l'accuse d'être l'instigateur et le responsable de la crise du moment. Elle a parlé de tour de magie. Et elle ajoute, quand on cumule les fonctions, on ne peut s'exonérer de cette responsabilité. Et puis, tout le monde en prend pour son grade, Elisabeth Borne également, qui en ressort, et là les mots sont très durs, pulvérisée, avec une autorité ruinée. Et donc à la fin de cette intervention, au moment des questions des journalistes, Marine Le Pen qui prédit un remaniement dans les semaines à venir, en fonction évidemment de l'état des blocages. On va en parler bien évidemment avec nos invités aujourd'hui. Bonjour Benjamin Morel, bonjour. Je rappelle que vous êtes maître de conférence spécialiste du droit constitutionnel. Bonjour Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine.
Bonjour Nelly.
Gauthier Lebray, du service politique, pour m'épauler comme chaque jour cette semaine. Et on accueille également le député Louis Marguerite, député Renaissance. Bonjour. De Saône-et-Loire. Merci de nous avoir rejoints. Revenons, si vous le voulez bien, à ce qui nous a tous occupés, ou presque, à la mi-journée, parce que dans un contexte politique et social des plus tendus, cela fait deux mois qu'on ne l'avait pas entendu s'exprimer. Il avait 30 minutes pour convaincre et tenter d'apaiser la colère post-49-3 aujourd'hui. Mais peut-il encore le faire, d'ailleurs, convaincre ? Pourquoi ne pas avoir pris la parole plus tôt ? Emmanuel Macron a confirmé qu'Elisabeth Borne restait en place pour l'heure et qu'il entendait faire aller le texte à son terme démocratique, entendre. Attendre la validation du Conseil constitutionnel. On y reviendra bien évidemment plus largement. Là aussi, il y a encore quelques inconnus. Et puis très vite, il a balayé les critiques, condamné les violences, critiqué les syndicats pour leur manque de propositions, selon lui, dans toutes ces séquences. Et puis très vite aussi, il a voulu embrayer sur les chantiers à venir, avec un long passage sur ce qu'il reste à faire en matière de travail, notamment. Alors pourquoi ne pas avoir traité retraite et travail de concert ? Je vous propose de l'écouter sur cette réforme qui, pour lui, allait aller à son terme.
Ah, je pense que pour que les choses rentrent en place, à la fois pour que, d'ici à la fin de l'année, pour près de 2 millions de nos compatriotes, 1 800 000 exactement, ils puissent avoir leur pension qui commence à être augmentée, environ 600 euros par an en moyenne, pour ces 1 800 000. Pour que, en effet, on commence à décaler l'âge légal de 3 mois par an, progressivement, et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestres à travailler, jusqu'à 43 ans à horizon 2027. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Mais maintenant, au moment où je vous parle, il faut attendre la décision du Conseil.
Gauthier Lebray, c'est fait, on ne changera rien, c'est complètement assumé.
Oui, il est droit dans ses bottes, le président. Il dit que le texte va suivre son cours. Donc, c'est-à-dire que là, il va être devant le Conseil constitutionnel. Il espère évidemment que le Conseil constitutionnel va valider ce texte. C'est pas fait. On sait que Laurent Fabius et les sages pourraient retoquer un point ici, un point là, notamment l'index senior, puisque je rappelle que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Donc, il faut que chaque article soit également un article budgétaire. Et sur l'index senior, qui vise à contraindre les entreprises à publier les données, leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein, eh bien, visiblement, ça pourrait pourrait ne pas passer puisque ce n'est pas un article purement budgétaire. Alors ensuite, le président effectivement droit dans ses bottes, qui n'a pas fait beaucoup d'annonces, hein, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, même à ce qu'on a pu nous dire du côté de l'Élysée. Une annonce sur une meilleure répartition des super profits pour les entreprises qui engrangent justement le plus de profits, mais c'est tout. Et il n'y a pas non plus une grande volonté d'apaiser les tensions après plusieurs petites phrases qui ont fuité du côté de l'Élysée. Je vous rappelle qu'il a parlé de victoire suite au rejet des motions de censure. Il a dit que la foule était illégitime. Alors il a tenu à faire l'explication de texte en disant qu'il distinguait foule et peuple, mais en prenant des exemples malheureux. Il a parlé du Capitole à Washington, de la défaite de Jair Bolsonaro avec les mouvements de foule qu'on avait pu voir au Brésil. Donc ça avait déjà fait réagir très vivement les oppositions qui ont parlé de mépris pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis pour terminer par les syndicats, effectivement, Emmanuel Macron leur a adressé un petit tacle et ça n'a pas plu du tout à Laurent Berger de la CFDT qui a parlé de déni et de mensonge. Laurent Berger, plutôt modéré, plutôt réformateur. Et alors pour Philippe Martinez, c'est carrément du foutage de gueule. Je cite Philippe Martinez. Tout ça à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Déjà que le 49-3, on pensait que le 49-3 allait venir renforcer les cortèges après plusieurs journées d'essoufflement. Là, très clairement, après ces petites phrases, après la déclaration, l'interview aujourd'hui du chef de l'État, on peut s'attendre à une journée de forte mobilisation demain.
Alors, on a entendu Marine Le Pen. Je vous propose d'entendre d'autres opposants. C'était un petit peu plus tôt et juste après l'interview présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan et Olivier Faure.
Plus le temps passe et plus on a le sentiment que cet homme vit en dehors de toute réalité.
Le président est un incendiaire qui est dangereux pour le pays, qui a soufflé sur les braises, qui est enferré dans un monde parallèle. Psychologique. Il vit dans un monde parallèle.
On est en fait chez les dingues. Voilà, on est avec un président en fait qui est un pyromane, qui est celui qui verse chaque jour un peu plus d'essence sur le brasier qu'il a lui-même allumé.
Bon, Judith Ventrop, on ne s'attendait pas trop à ce qu'il y ait un quelconque satisfecit du côté des oppositions. Mais néanmoins, un petit peu plus tard dans cette intervention, Jean-Luc Mélenchon dira « il nous méprise ». Il y a quelque chose de l'ordre du mépris dans cette intervention présidentielle aujourd'hui ?
En tout cas, contrairement à ce qu'a dit Marine Le Pen quand elle a commencé sa conférence de presse en reprochant à Emmanuel Macron de ne pas assumer ce qui se passe dans le pays, il assume. Au contraire, toute son intervention télé était pour dire « j'assume ». C'est moi, c'est impopulaire, je ne le fais pas par plaisir, je le fais parce que je pense que c'est l'intérêt du pays. Et il le fait d'une façon qui, effectivement, et là tous les commentaires se rejoignent, et à juste titre, ne peut que raviver les colères. À la veille d'une manif qu'on annonçait déjà extrêmement importante, une manif légale, une manif autorisée, organisée par les syndicats, s'il voulait faire en sorte que la manif soit la plus massive possible, et on sait que plus elle est nombreuse, plus les risques d'incidents se multiplient, c'est comme ça qu'il ferait. À se demander, même s'il ne joue pas avec un certain cynisme, l'incarnation de l'ordre, le recours de l'ordre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'était adressé à cette heure-là à des gens qui appartiennent plutôt à sa base électorale face au chaos.
Louis Marguerite, ce serait grave si on en arrivait à ce point de cynisme. S'appuyer sur ceux qui le soutiennent pour dire voilà, tout va rentrer dans l'ordre parce que maintenant je vais envoyer les forces de l'ordre pour remettre un petit peu tout cela en place.
Non, je ne peux pas imaginer que vous pensiez réellement ce que vous venez de dire à l'instant. Mais
je pose la question, sérieusement.
Non, mais vraiment, je vous réponds aussi sérieusement, honnêtement, on ne peut pas imaginer cela. Peut-être quelques points quand même. D'abord, le projet de loi, il suit son chemin démocratique et ça a été adopté constitutionnellement. Maintenant, évidemment, on voit bien qu'il y a des garde-fous du Conseil constitutionnel. Ça a été évoqué à ma gauche. Et donc voilà. Et donc, il y aura les études qui doivent être faites. Est-ce que pour autant, c'est de nature, ce chemin démocratique, enfin, en tout cas, ce chemin institutionnel et constitutionnel est de nature à rassurer, à apaiser? Non. Sinon, on ne serait pas en train d'en parler et d'avoir comme titre ce qui est indiqué en bas de l'écran. Donc, il faut effectivement être dans l'écoute et l'apaisement. C'est pas simple parce que, effectivement, viennent s'agglomérer beaucoup d'autres colères. Moi, je le vois dans ma circonscription, s'agrège aussi, et c'est sans doute des causes peut-être qui suscitent plus de colère que les retraites, que sont les fermetures de classe, que sont l'accès aux soins, etc. On aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler. Donc, effectivement, je pense qu'il faut être dans l'écoute et dans l'apaisement. Moi, je note quand même que dans tous ceux qu'on vient d'écouter, en particulier Marine Le Pen, c'est le discours du tout et son contraire. Vous avez raison, c'est peut-être un des points qu'on a en commun. Et elle commence par dire qu'il n'assume pas finalement. On peut au moins reconnaître
qui l'assume. Reconnaître.
Oui. Elle dit que il n'a pas à s'immiscer parce qu'il cumulerait, enfin en tout cas non, au contraire, il s'immiscerait trop vite parce qu'il cumulerait la fonction de président de la République et de Premier ministre, tout en lui reprochant aussi l'inverse. Elle dit, elle attise une forme un peu de violence qui l'arrangerait au fond, hein, tout en appelant au calme et tout en mettant en valeur d'ailleurs le fait qu'il y a une constitution et des institutions qui doivent être respectées. Et c'est pas, et je veux pas dire que ça suffirait, mais évidemment, il faut être dans cette écoute et cette empathie, et c'est l'objectif qu'on s'est fixé.
Avant d'en revenir aux considérations constitutionnelles, c'est votre domaine, vous êtes quand même l'expert sur ce plateau là-dessus, et on reviendra à la fois à ce que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer sans doute à la marge, on le redit, et puis aussi reparler du référendum d'initiative partagée, parce que finalement, ce fameux chemin démocratique, il n'est pas complètement fermé, hein, ça n'est pas complètement terminé, même si ça risque de prendre du temps. Un mot quand même sur la nature de ce qu'il a dit, sur la forme, et je reviens à ce que disait Judith, s'il faut endosser l'impopularité, je le ferai, donc il assume complètement. Mais au passage, il dit, au fond, qu'il n'a qu'un regret. Hein. Son regret, c'est celui de ne pas avoir réussi à partager ou à faire partager la contrainte de cette réforme. Et puis là, il se lance dans un long chapelet pour dire pourquoi c'était justifié, pourquoi la réalité d'hier n'était plus celle d'aujourd'hui en termes de finances. Ça vous a frappé, cette manière qu'il a de complètement assumer, mais de ne pas bouger d'un iota?
Oui, parce qu'en réalité, et Judith l'a dit, il s'adresse à son électorat. Vous ne parlez pas à 13h un jour de semaine si vous vous adressez à autre chose qu'à votre électorat. L'électorat macronien, qui est plutôt âgé, qui est plutôt aujourd'hui un électorat de centre-droit, etc., c'est à cet électorat qu'il parle. Et il faut le comprendre. Si vous prenez les enquêtes sur le 49 alinéa 3, cet électorat qui a été l'avantage d'Emmanuel Macron durant toutes les crises, il l'a suivi même au moment de la crise des Gilets jaunes, cet électorat est en train de commencer à s'effriter. Et ça, c'est grave pour Emmanuel Macron. Donc là, il essaye de remobiliser cet électorat avec deux objectifs. Il a également dit dans cette interview, eh bien, grosso modo, on va cesser de beaucoup légiférer, on va passer par voie réglementaire, etc. Donc là, on a une forme de stand-by du quinquennat. L'important, c'est de tenir cette base électorale pour essayer de passer la crise, en espérant que eh bien, la situation se calme, la situation s'apaise. Et le problème, c'est qu'il n'est pas certain, un, que cette situation s'apaise, parce que eh ben, aujourd'hui, vous avez quand même des rues qui, demain, vont être agitées. Vous parliez du RIP. Le RIP va faire qu'on va mettre une pièce dans la machine pendant encore 9 mois. Si le RIP est lancé, ça veut dire que pendant 9 mois, les syndicats, les partis de gauche vont aller faire la collecte des 4 800 000 signatures. Tous les soirs, on va se demander où en est le RIP. Et donc, on va continuer à parler de retraite. Donc, on a quand même un pari présidentiel d'épuisement de ce sujet, de pages qui pourraient se tourner, qui m'apparaît être un pari extrêmement, extrêmement risqué, d'autant plus quand, comme vous l'avez dit, bah vous mettez un tantinet de l'huile sur le feu et que les seuls partenaires avec lesquels vous pourriez avancer sur d'autres sujets tels la CFDT, eh bien, vous leur envoyez un coup de pied de l'âne, ce qui fait qu'évidemment, bah ça va être dur d'avancer.
Gauthier, on parle des partenaires sociaux et de ce qui va suivre, ou on parle plutôt peut-être des justifications qu'il a voulu apporter. Quand je disais, voilà, la réalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, en fait, il est revenu sur le paramétrique, sur la nécessité de faire payer les actifs, sur le fait que les oppositions ne proposaient rien d'autre que des déficits, grosso modo. Et il nous a dit, en gros, on est en train de payer pour le Covid et la guerre. C'est ça qui se passe aujourd'hui.
Tout à fait. Et effectivement, il a parlé de la nécessité de cette réforme. Et son seul mea culpa, son seul regret, c'est de ne pas avoir réussi à faire comprendre aux Français la nécessité de cette réforme. On pouvait aussi comprendre que c'était peut-être un peu de la faute des Français et de leur mauvaise foi.
Exactement. Potentiellement.
Et puis, il a redonné sa confiance à Elisabeth Borne et il lui a appelé à élargir la majorité. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il est très clairement dans une impasse. D'ailleurs, il a commencé à dire que le projet de loi immigration allait être rangé dans un tiroir, repoussé. Il n'a pas totalement confirmé. Ça a été confirmé ensuite par un conseiller de l'Elysée à l'Agence France Presse. C'est intéressant comme stratégie de communication. C'est plus le président qui fait les annonces, ce sont ses conseillers auprès de l'Agence France Presse. Donc le texte qui devait arriver au Sénat la semaine prochaine n'arrivera pas au Sénat. Pourquoi ? Pour une raison simple, il n'était absolument pas certain, même peut-être certain de ne pas avoir de majorité. Alors au Sénat, on veut mieux discuter avec, quand on est sénateur LR, c'est plus simple de discuter avec le gouvernement que quand on est député Les Républicains, puisque Éric Ciotti avait d'ores et déjà dit qu'il voterait contre cette proposition et ce projet de loi immigration. Donc Emmanuel Macron aurait dû recourir à un nouveau 49-3. Évidemment, politiquement, c'est intenable. Et pourquoi il est dans une impasse ? Parce que aujourd'hui, avec la disposition de l'Assemblée nationale, on voit bien qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il recule sur ce projet de loi immigration. Et s'il fait le choix de dissoudre, bon, eh bien, il perdra sa majorité relative. Donc, il est vraiment dans une impasse. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Elisabeth Borne d'élargir sa majorité. Je rappelle que ça avait été l'une de ses missions au moment de former son gouvernement et qu'elle avait reçu une fin de non-recevoir tant par les Républicains que par la gauche modérée, si je peux l'appeler ainsi.
Alors, puisqu'on parle d'Elisabeth Borne, je vais faire réagir bien sûr, mais j'aimerais aussi qu'on réécoute des extraits, parce que peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas suivi dans son intégralité, cette interview tout à l'heure sur notre antenne. À propos d'Elisabeth Borne et le 49-3, il y a un moment quand même dans l'interview où il se défausse, c'est ce moment-là.
Elle a décidé, après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres pour cette réforme, le fait que pour qu'elle passe et ne laisse aucune incertitude, elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle le 49-3, le fameux article. C'est la 100e fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement et elle a dit au Parlement, si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime. Lundi, il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative.
À 9 voix près.
Oui, mais vous savez, nous sommes en République à une voix près.
On a quasiment aucun
point. Bon, Louis Marguerite, bien sûr, vous êtes là pour assurer la défense, mais enfin, quand même, qui peut sérieusement le croire ? Elle a souhaité, elle a engagé, tout le monde connaît le fin mot de cette histoire, tout le monde sait ce qui s'est tramé juste avant le dépôt du 49-3, ce branle-bas de combat à l'Élysée. C'est lui qui est derrière, c'est pas sa première ministre.
Non, mais on ne prend pas une décision aussi importante sans effectivement. En discuter avec le président de la République, c'est évident, n'importe quel gouvernement, de quelle couleur qu'il soit.
Et donc, elle a tranché toute seule comme une grande.
Mais vous savez bien que ce n'est pas le cas, et vous savez bien qu'il y a eu des. Ce que vous appelez le branle-bas, en réalité, c'était le décompte de ceux sur qui on pouvait espérer pour dépasser.
Il était compliqué, mais on a
cherché tous, y compris le président de la République et la première ministre, et tous ceux qui étaient autour de lui à ce moment-là, sur les fameuses trois réunions, à regarder si on nous avions à pousser pour vers le vote. Donc jusqu'au dernier moment, on pensait qu'on pouvait le faire, ça n'a pas été le cas. Je voudrais juste revenir sur un point, parce que est-ce que le travail parlementaire va suffire à calmer? Bien évidemment que non. Il va falloir qu'on soit très concret pour répondre aux attentes des gens auxquelles on ne répond pas. Et je reviendrai sur les thèmes de l'école et de la santé notamment. Mais je note quand même que, bien sûr que c'est difficile sur ce texte, mais je note à nouveau que la motion de censure, certains l'ont votée, et au moins ça aurait le mérite de la cohérence. Moi je note qu'il y a quand même 19 députés LR qui l'ont voté, alors qu'ils trahissent peut-être ce qu'ils ont défendu pendant des années, ça c'est une chose, mais au moins ça montre vraiment qu'ils étaient contre cette réforme, ça a le mérite de la cohérence. Mais je note quand même qu'il y a quand même une dizaine de textes, alors qui étaient peut-être moins emblématiques, qui étaient peut-être moins visibles publiquement, moins visibles médiatiquement, mais qui ont tous été votés avec des majorités de projets, ou en tout cas une absence d'opposition de projet, peut-être pour être peut-être totalement objectif. Il y a eu quand même un projet de loi de finances rectificative, il y a eu la loi sur les énergies renouvelables, il vient d'avoir il y a quelques heures, quelques jours, le projet de loi de l'énergie nucléaire, donc les choses sont possibles et le travail parlementaire n'est pas bloqué. Là encore, je ne suis pas en train de dire que ça va suffire à calmer les tensions qui existent dans le pays, qui sont réelles et auxquelles il faut répondre, et c'est la responsabilité des élus que nous sommes, mais également plus largement de tous ceux qui ont une responsabilité d'influence dans la société, et ça c'est très important, et donc moi j'appelle à tous ceux qui ont une responsabilité d'influence parce qu'ils rencontrent beaucoup de gens dans leur profession, parce qu'ils sont exposés médiatiquement, voilà, et essayer de calmer et surtout être dans l'écoute et l'empathie, c'est très important dans les jours qui arrivent.
Judith, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait mine de vouloir recouvrer une majorité parlementaire, tout en disant un petit peu plus loin, et c'est d'ailleurs ce que lui a reproché, voilà, Marine Le Pen, en gros, qui veut contourner le Parlement parce que, je le cite, on passe trop par la loi dans notre République. Ce qui lui fait dire à elle, mais en fait, il est en train d'outrepasser les institutions qui sont les nôtres avec le partage des pouvoirs, quoi.
Alors, dans l'absolu, il a raison. On fait beaucoup trop de lois dans ce pays sur le même sujet, à répétition. On en était avant que le projet soit officiellement abandonné à la 30e loi sur l'immigration en 20 ans, sauf erreur de ma part.
Repousser le projet, pas abandonner. Tout de même.
Abandonné pour être saucissonné.
C'est ça.
A priori, ce qu'on dit.
En tout cas, le tempo n'est pas le bon, ça c'est sûr, le timing n'est pas le bon.
Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que. Ça a été étudié en commission au Sénat, où les sénateurs LR étaient en train de durcir le texte pour pourquoi pas le voter ensuite.
Mais en fait, tout ce qu'il fait... Donc, sur le principe, on peut être d'accord, il y a trop de lois dans ce pays. Pourquoi ne pas prendre la voie réglementaire, qui n'exonère pas d'ailleurs de contrôle de légalité, hein. Il ne faut pas croire que le président tout seul fait, ordonne un règlement
au Premier ministre, d'ailleurs.
Tout à fait, dans son coin. Mais il se trouve qu'en fait... Ça acte l'impossibilité de trouver une majorité, comme Gauthier le disait, sans usage du 49-3, dont je rappelle qu'il ne peut être utilisé qu'une fois par session hors texte budgétaire. Et puis c'est une sorte de réponse à, par exemple, Édouard Philippe, qui dans les colonnes du Figaro ce matin disait qu'il faut élargir avec évidemment les Républicains, mais élargir aussi avec la gauche non France Insoumise. Enfin bref, qu'il faut faire une espèce de gouvernement de salut public.
Sinon, c'est l'immobilisme.
Il acte l'impossibilité d'en faire une. Il le dit d'ailleurs. Oui. Quand il demande En même temps qu'il charge Elisabeth Macron d'élargir autant qu'elle le peut, ce sont ses mots, la majorité, dit « je ne parle pas d'accord de gouvernement ».
Elle a dit Elisabeth Macron.
Vous avez dit Elisabeth Macron.
Elle a dit, c'est intéressant.
il précise « je ne parle pas d'accord de gouvernement » parce qu'il sait que c'est impossible.
Mais Benjamin.
Non, il n'y a pas d'accord de gouvernement possible. Souvenez-vous, l'archéologie de cette réforme, c'est quoi? C'est deux choses en réalité. Vous choisissez un PLFSS rectificatif. Pourquoi? Parce que vous voulez utiliser le 49 alinéa 3 gratuitement. Pourquoi? Pour faire passer de la loi immigration. Et là, il y a un vrai quand même échec et un vrai paradoxe. Exactement. Ouais. Le deuxième élément, c'est vous passez d'entrée de 65 à 64 ans. Pourquoi? Pour acheter les voix de LR. LR ne va pas dans l'affaire parce que tout bêtement, le groupe LR est un groupe aujourd'hui très exposé. Et donc vous pouvez dire, je fais une coalition avec LR, vous ferez une coalition avec Éric Ciotti et Olivier Marleix, vous ne ferez pas une coalition avec 60 députés LR. Donc aujourd'hui, tenir une majorité est impossible. Et si vous prenez les images de votre groupe, monsieur le député, lors de la motion de censure, ce sont des images qui sont dures pour le gouvernement. Parce que normalement, lors d'un vote d'une motion de censure, ah oui, les députés de la majorité ne servent à rien. Certes, parce qu'ils ne votent pas. Néanmoins, ils applaudissent le Premier ministre, ils le soutiennent. Là, ils étaient peu présents. Souvenez-vous, il y a deux semaines, les PPL Horizon rejetés par Renaissance. Les PPL Renaissance, notamment celle de la présidente de Renaissance, oui, rejetée par une partie de son groupe et par les Modem. Aujourd'hui, le fait d'avoir une majorité parlementaire claire, solide, est loin d'être évident. Elle est non seulement relative, mais elle est également friable. Et je rejoins ce que disait Judith ensuite. C'est-à-dire que malgré tout, on peut réformer par voie réglementaire. La plupart des lois qui sont extrêmement rapidement votées et très mal faites ont pour but de corriger des lois qui ont été votées il y a quelques années auparavant. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre.
Finalement, Gauthier, c'est un peu la leçon qu'on retiendra, le fait d'avoir misé, c'est peut-être le péché de cet exécutif, d'avoir trop misé sur une majorité qui lui semblait acquise de facto avec les Républicains.
C'était un engagement d'Olivier Marleix qui avait dit à Elisabeth Borne qu'il était en capacité de lui apporter les voix qui manquent, à savoir des voix à les Républicains, pour faire voter cette réforme des retraites. Et jeudi de la semaine dernière, où le 49-3 sera finalement déclenché, il appelle Elisabeth Borne pour lui dire « Madame la Première ministre, je ne vais pas pouvoir tenir cette promesse ». Et effectivement, il y a de nombreuses concessions qui ont été faites aux Républicains. La première d'entre elles, passer de 65 ans à 64 ans. Il y a eu ensuite les carrières longues, le CDI senior, la surcote des femmes de 5%, avec des milliards à chaque fois dépensés en plus. Et je rappelle en plus que les Républicains défendaient 65 ans il y a à peine quelques semaines en soutenant Valérie Pécresse et se montraient, elle disait Emmanuel Macron a cramé la caisse. Et les Républicains ont quelque part cramé la caisse en demandant toujours plus de concessions. Ils ont été d'ailleurs quasiment meilleurs que la CGT et la CFDT sur ce point. Et hier, Jean-François Copé, lors du bureau au siège des Républicains, a dit « Le tort d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir négocié avec nous plutôt qu'avec la CFDT ». Et c'est sans doute très vrai.
Juste un mot en réaction à ce que vous entendez. Et après, on va passer au journal parce que Mickaël Dorian va me rejoindre sur ce sujet.
Juste un mot. Ça fait 20 ans que la droite de gouvernement, dite de gouvernement, écrit dans ses tracts qu'il faut faire une réforme des retraites dans des versions beaucoup plus dures, non seulement les 65 ans, y compris sur la remise en cause des droits acquis, notamment sur les régimes spéciaux. Non seulement ils voulaient les supprimer comme nous, mais en plus remettre en cause les droits acquis, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà rentrés dans le régime. Donc voilà, on peut toujours écrire ce qu'on veut dans les programmes politiques, présidentiels ou législatifs. Après, effectivement, alors quand il s'agit de tenir les engagements, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc moi, je note que ceux qui ont au moins voté la motion de censure sont fidèles à leur nouvelle conviction, je ne sais pas comment on appelle ça. Les autres, je pense qu'effectivement, certains sont appelés à construire avec nous des majorités de projets.
Vous parliez des syndicats. Justement, certains ont regardé l'intervention du président de la République. Oh, pas pour très longtemps, hein, lorsqu'il s'agit d'Olivier Matteux, vous savez, ce représentant de la CGT 13, qui concourt d'ailleurs pour prendre la tête du syndicat CGT national. Écoutez-le, c'était dans un camion. Ça vaut son pesant d'or. À tout à l'heure.
Il faut attendre la décision du Conseil.
Alors, on va parler de la crise sociale dans notre pays qui est fort.
Avec cette intervention. D'accord ? Parce que vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Une fois qu'il se fait valider par le Conseil constitutionnel, il fait tout ce qu'il faut pour que le texte soit promulgué et qu'il entre en vigueur. Donc ça veut dire qu'il faut faire entendre à ce président, à son gouvernement, au MEDEF et au Conseil constitutionnel, qu'il vaut mieux que la réforme le soit retirée. Et qu'est-ce qui reste comme solution? C'est demain des millions de grévistes et de manifestants, et encore plus de grèves reconductibles dans tous les secteurs possibles et imaginables.
Il est 16h, passé de 2 minutes, on va retrouver Mickaël Dorian pour le journal. On commence avec les titres. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, Emmanuel Macron à la télévision cet après-midi. Nous reviendrons sur cette longue interview du chef de l'État, plus d'une demi-heure dès le début de ce journal.
Le président de la République qui a notamment condamné les violences et les blocages dans le pays, alors qu'hier soir, de nouveaux débordements ont eu lieu dans la capitale. 81 personnes, notamment, ont été interpellées à Paris.
Dans les Bouches-du-Rhône, les blocages commencent à impacter les automobilistes. La préfecture a dû mettre en place des réquisitions pour ravitailler les professions dites prioritaires. Reportage à suivre dans un instant.
Et puis, vous verrez qu'un tiers des Français se privent de produits d'hygiène par manque de moyens. Ils sont précisément 34% selon un sondage IFOP pour l'association Don Solidaire.
L'interview du chef de l'État a donc duré plus de 30 minutes. Vous l'avez suivi en direct sur CNews. Emmanuel Macron, dont le seul regret est de ne pas avoir réussi à convaincre autour de cette réforme des retraites. Il a notamment renouvelé son soutien à sa première ministre, Elisabeth Borne. Je vous propose de l'écouter.
Elle a décidé, après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres pour cette réforme, le fait que pour qu'elle passe et ne laisser aucune incertitude, elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle le 49.3, fameux article. C'est la 100e fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement. Et elle a dit au Parlement, si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime. Lundi, il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative.
À 9 voix près.
Oui, mais vous savez, nous sommes en République à une voix près.
Et puis comment cette longue interview du président de la République a-t-elle été perçue, et notamment du côté de l'Assemblée nationale? Bonjour Élodie Huchard, vous êtes au Palais Bourbon précisément cet après-midi. Alors certes, on a entendu in extenso Marine Le Pen tout à l'heure, mais on imagine que dans les couloirs de l'Assemblée, elle était loin d'être la seule à critiquer cette prise de parole et à s'en offusquer.
Eh bien, évidemment, ça ne vous étonnera pas. L'opposition n'a pas trouvé cette prise de parole convaincante. Alors, notamment du côté de tous les groupes de la NUPES, on explique que le président de la République, qui voulait soi-disant apaiser les colères, nous disait, l'Élysée n'a fait que les attiser. C'est ce que disait par exemple la patronne des écologistes, Cyrielle Châtelain. Et puis surtout, tous ont noté qu'à plusieurs reprises, le président de la République évoque la décision à venir du Conseil constitutionnel. Tous l'ont souligné, et Raquel Garrido, même de la France Insoumise, nous disait, c'est à se demander s'il ne souhaite pas que la loi soit retoquée finalement par le Conseil constitutionnel, et puis même mot d'ordre dans tous les rangs de la gauche. Non seulement ça n'attise pas les colères, mais surtout ils appellent les gens, les Français, à aller manifester demain. Et puis quand on pose la question, justement puisqu'il veut élargir sa majorité à tous les groupes, la gauche et y compris les Républicains, quand on leur demande s'ils sont prêts à saisir cette main tendue, eh bien tous font la même réponse. Ils ne voient pas comment le président Elisabeth Borne pourrait élargir leur majorité dans le court terme.
Merci beaucoup Élodie Huchard en direct de l'Assemblée nationale. Les images sont signées Jean-Laurent Costantini. Réaction également, vous le disiez Nelly, de Marine Le Pen qui a pris la parole depuis l'Assemblée nationale, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon. On les écoute tous les deux.
Le président de la République, il y a une fois de plus de parler pour ne rien dire, et de ce qu'on en a compris, on n'y retrouve que les marques traditionnelles du mépris dont il nous a accablés jusque-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il aura mis son imagination en grève. C'est une contribution qui est appréciée.
Maladresse ou choix délibéré, M. Macron a opté pour un horaire de diffusion qui relève d'une volonté ostensible, transgressive et même puérilement provocante d'ignorer la France qui ne peut pas être devant sa télévision en pleine journée. C'est-à-dire la France des actifs. Ces Français qui étaient les plus concernés par la réforme des retraites et qui y sont opposés à près de 90%. Un président de la République aurait dû avoir à cœur de s'adresser d'abord à ceux qu'il avait heurtés, blessés ou contraints. Le rôle d'un président est de s'adresser à tous, sans exclusion ni mépris, de trouver les mots pour rassurer et rassembler.
Réaction du côté des syndicats. À présent, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui accuse Emmanuel Macron d'avoir menti à propos de la position de son syndicat sur les retraites pour, je cite, « masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste ». Et puis pour Philippe Martinez, le patron de la CGT, les propos du président sont dus à mépris pour les millions de personnes qui manifestent.
Emmanuel Macron a donc insisté tout à l'heure sur la nécessité de réformer notre système de retraite. Elisabeth Borne l'a également rappelé au Sénat en pleine séance de questions au gouvernement. Elle répondait à la question du sénateur écologiste de l'Isère, Guillaume Gontard.
Oui, cette réforme est nécessaire pour assurer l'avenir de nos retraites. Sans elle, les déficits se seraient accumulés et nous aurions été contraints à des hausses d'impôts ou des baisses de pensions au détriment des plus modestes et des classes moyennes. Et oui, le compromis fonctionne. Nous avons travaillé ensemble, bâti un projet qui reprend des propositions que la majorité sénatoriale portait parfois depuis longtemps, mais aussi des idées qui n'étaient pas les vôtres, issues de l'Assemblée. Et ce projet, vous l'avez adopté par deux fois à une large majorité.
Un sondage CNews à présent à la question « Êtes-vous en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement ?» La réponse est oui pour 83% de nos concitoyens. Et dans le détail, vous le voyez, 58% qui précisent être beaucoup en colère après cette séquence.
Et face à la colère des Français, justement, Emmanuel Macron s'est aussi exprimé tout à l'heure sur les blocages et les violences lors des manifestations de ces derniers jours, des débordements que le chef de l'État condamne. Écoutez.
Il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je ne l'ai dit ni les factieux ni les factions dans la République. Et il y a les blocages, et les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai demandé, c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'essayer au maximum de négocier et ensuite de réquisitionner. Ce que nous avons pu faire sur les ordures ménagères, par exemple, dans certaines grandes villes, ou sur les raffineries, à chaque fois qu'il faut le faire. Ça a commencé et ce sera fait pour qu'il n'y ait pas de blocage.
Parlons des violences. Il y en a eu encore hier soir lors de rassemblements contre cette réforme. 81 interpellations ont eu lieu à Paris, où environ 3500 personnes s'étaient rassemblées place de la République, si l'on en croit la préfecture de police. On va d'ailleurs revenir à cette soirée brûlante avec Alexis Vallée.
Des incendies à chaque coin de rue. Ici, chaque poubelle a été brûlée. Voici comment ces casseurs s'organisent. Pendant que les pompiers s'occupent de contenir ces feux, les forces de l'ordre déblaient le passage. Les dégâts sont nombreux et les violences urbaines bien visibles. 2h30 de tension place de la République, marquée par des tirs de feux d'artifice côté manifestants. Les policiers, eux, répliquent avec du gaz lacrymogène. Au total, plus d'une quarantaine de personnes ont été interpellées.
Et concernant les rassemblements de demain, entre 600 et 800 000 manifestants sont attendus dans tout le pays, entre 40 et 70 000 à Paris. 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 dans la capitale.
Le blocage au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, avec 200 manifestants qui sont toujours sur place et qui bloquent ce complexe. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait le secrétaire de l'Union départementale de la CGT Bouches-du-Rhône. Il prévient d'ailleurs, au passage, que les grévistes sont loin de baisser les bras.
C'est une violence contre les travailleurs, c'est une violence contre le peuple qui est soutenu, qui soutient ces travailleurs, et donc c'est vraiment une preuve d'autorité politique sans aucune considération pour la légitimité du mouvement social qui est majoritaire et populaire dans le pays. Ça déborde depuis longtemps, et il y a un moment où si on nous oblige de travailler 2 ans de plus, c'est juste insupportable. Donc avec ce mépris et cette arrogance qui caractérise le président, on dit stop, stop, et on est là.
Et dans les Bouches-du-Rhône, donc, ces blocages commencent à impacter sérieusement les automobilistes. La préfecture a dû mettre en place des réquisitions pour ravitailler les professions dites prioritaires. Reportage à Marseille de Laure Parra et Somaya Labidi.
Avant même son ouverture, déjà plus de 2 km de file d'attente à 5h du matin devant cette station-service réquisitionnée à Marseille. Et certains automobilistes sont à bout. C'est le cas de Denis, très en retard pour aller travailler.
Je dois commencer à 6h30 du matin et à l'hôpital. Et du coup, je suis toujours en panique. Depuis 5h30, j'attends. Ou même les réquisitions, ça ne sert à rien. De toute façon, il n'y a rien qui avance. De toute façon, c'est le pays, ça ne va pas du tout.
Face aux difficultés d'approvisionnement, La préfecture de police a réquisitionné 11 stations dans le département pour ravitailler les véhicules prioritaires. Ces professionnels de santé qui soutiennent le mouvement de grève prennent leur mal en patience.
Ça fait 3 heures que je fais la queue ici. 3 heures.
Vous attendiez à ça ?
Je m'attendais, oui. Je m'attendais à ça. Et puis, je leur dis à tous ceux qui manifestent, je les soutiens à 100%.
De toute façon, ils ont raison. Nous, on ne peut pas le faire, mais ils le fassent, c'est très bien.
Malgré les deux heures d'attente.
La tension est telle que les forces de l'ordre sont obligées d'encadrer la file pour éviter les incidents. Dans la cité phocéenne, plus de la moitié des stations-service manquent d'un type de carburant.
Marseille, où une nouvelle opération Port-Mort est en cours depuis ce matin. Les dockers bloquent l'entrée des voitures et des conteneurs. Une vingtaine de policiers d'ailleurs sont sur place. Un peu plus tôt dans la journée, des feux de palettes et de pneus allumés par des manifestants ont contraint à la fermeture de l'autoroute A55 en direction de la cité phocéenne.
À Toulouse maintenant, la gare a été bloquée par des manifestants. Le trafic a dû être interrompu pendant près d'une heure. Près de 300 manifestants cheminots opposant la réforme ont envahi les voies. Le blocage a été levé en tout début d'après-midi.
Une troisième semaine de grève débute à la SNCF. On s'attend d'ailleurs à une circulation fortement perturbée demain. La SNCF qui communiquera ses prévisions dans moins d'une heure, a priori. Et bien, du côté des transports, on sait déjà qu'il y aura un métro sur trois sur certaines lignes parisiennes, un RER A sur deux ou encore un RER B sur trois. Enfin, pour les tramways et les bus, le trafic devrait être quasi normal.
Dans ce contexte, le roi Charles III est toujours attendu à Paris dès dimanche pour sa première visite officielle à l'étranger. Le roi d'Angleterre et son épouse Camilla seront en France du 26 au 29 mars, mais le programme de son séjour pourrait être perturbé par le mouvement de grève qui secoue le pays. Les précisions avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
À moins d'une semaine du déplacement du roi Charles III, les médias britanniques commencent petit à petit à évoquer cette visite historique. Mais ce qui fait beaucoup parler ici au Royaume-Uni depuis quelques jours, ce sont évidemment les tensions sociales actuelles en France. Charles III, qui doit donc la semaine prochaine se rendre à Paris, puis à Bordeaux, avant de remonter à Versailles. Alors si pour l'instant, côté britannique, il n'est pas question d'annuler cette visite d'État, les médias anglais estiment quand même que le palais de Buckingham est bien suivi avec une grande attention ce qui se passe actuellement en France. Le palais de Buckingham prendrait au jour le jour des informations autant auprès des autorités françaises qu'auprès des autorités britanniques. Le journal Le Daily Mail estime, lui, de son côté, bien que cette visite d'État inquiète fortement le staff de Charles III, qui suit donc avec grande attention la situation. La presse britannique évoque en tout cas une visite sous haute surveillance. Le système de sécurité du roi et de la reine consort Camilla devrait être renforcé. Depuis une dizaine de jours maintenant, la presse britannique se fait l'écho des tensions sociales en France, relayant massivement les images des manifestations, notamment celle place de la Concorde. Le très sérieux journal Le Times consacrait même il y a quelques jours une double page à la grève des éboueurs parisiens. À moins d'une semaine du déplacement de leur roi en France, donc, les médias britanniques sont très attentifs à la situation outre-Manche.
Dans l'actualité, plus près de nous, sachez également qu'à Rennes, plusieurs affrontements ont eu lieu en marge de manifestations de marins pêcheurs. Plusieurs centaines de pêcheurs venus de toute la France pour dénoncer les contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur la pêche artisanale. On va écouter le porte-parole du mouvement pêcheur à Lorient.
Les pêcheurs en ont ras-le-bol. Voilà. Avec le coût du gasoil qui est arrivé extrêmement cher. À l'heure actuelle, le coût du gasoil est arrivé à 80 centimes pour les bateaux de pêche. C'est énorme. Et à cause du coût du gasoil, on n'arrive plus à dégager de salaire à nos équipages. Et on a beaucoup plus de mal maintenant à payer nos fournisseurs, nos affaires, tout simplement. Quoi. On est pris à la gorge. Le plan PAI, tout ça, c'est carrément la destruction de la flottille française. Il y a un deuxième plan qui va être mis en place dans je ne sais pas combien de temps, dans incessamment sous peu. Donc si ce n'est pas pour détruire la flottille française, je ne sais pas ce que c'est. On nous parle de souveraineté alimentaire. Mais c'est du gros foutage de gueule. Si on détruit une partie de la flottille française, la souveraineté alimentaire, elle sera où ?
On termine avec ce chiffre alarmant. Un tiers des Français se privent de produits d'hygiène par manque de moyens. Ils sont précisément 34% selon le sondage IFOP pour l'association Don Solidaire. Les précisions de Kylian Salé.
Le dentifrice, les protections hygiéniques ou encore les cotons de tige, dans ce contexte instable, 34% des Français font des économies sur les produits d'hygiène. Pour cette sociologue, c'est une atteinte à la dignité des individus en précarité.
Il va y avoir aussi une forme de stigmatisation sur les publics les plus précaires, mais parce qu'aussi il y a des formes de normes dans la société liées au rapport au corps. Et donc ces normes imposent des manières de faire. Et si les personnes ne peuvent pas forcément faire, eh bien, de fait, elles vont se sentir exclues.
Autre chiffre inquiétant, 7% des sondés disent se brosser les dents sans dentifrice, 8% se lavent sans savon ni gel douche. Enfin, 17% des parents ne changent pas les couches de leur enfant aussi souvent qu'ils le souhaiteraient. Autre point, à la question « Manquez-vous de protection hygiénique ?», 31% des femmes répondent oui. Certaines d'entre elles avouent utiliser du papier toilette pour remplacer les serviettes hygiéniques trop coûteuses.
Ça va causer des gênes, par exemple, dans des milieux de travail ou dans des milieux étudiants. Mais aussi, elles vont réduire des déplacements et ne pas sortir peut-être pour certaines de chez elles.
D'après l'étude, entre 3 et 6 millions de Français doivent parfois renoncer à des produits de première nécessité.
Merci beaucoup, Mickaël. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour le journal. Dans un instant, on accueillera à nouveau nos invités pour poursuivre le débat. On va marquer une courte pause et on reviendra bien sûr très largement à l'interview télévisée du président de la République. A-t-il su convaincre ? A priori, du côté des oppositions, c'est non. On verra ce qu'il en est du côté des Français. À tout à l'heure. De retour avec vous dans 90 minutes info, sa parole était attendue, mais il reste droit dans ses bottes. Emmanuel Macron, dans une interview à 13h, a confirmé qu'il maintenait Elisabeth Borne à la tête du gouvernement et qu'il entendait aussi faire aller le texte à son terme démocratique. On va en parler avec nos invités dans un instant qui nous ont rejoints sur ce plateau. Mais avant cela, un petit détour du côté du Palais Bourbon où nous attend Élodie Huchard. Bonjour Élodie. Beaucoup de réactions dans la salle des quatre colonnes de la part des députés qui ont évidemment tous écouté le président avec ce mot qu'on a beaucoup entendu, celui de mépris et d'ignorance des demandes, des attentes des Français.
Oui, finalement, ce que nous disent les députés d'opposition, et vous ne serez pas étonnés, c'est que cette intervention était un peu une intervention pour rien. Ils estiment que cela ne va qu'attiser la colère. Et d'ailleurs, notamment dans les groupes de la NUPES, on appelle de nouveau les Français à aller manifester demain. Et puis, surtout, ils expliquent que le président est déconnecté, qu'il ne répond en rien. Eux, évidemment, qui attendaient et qui n'ont de cesse de répéter qu'ils n'exigent que le retrait de la réforme. En revanche, aussi, ce qui a été noté par les députés ici à l'Assemblée, c'est que le président, à plusieurs reprises, a fait référence à la décision à venir du Conseil constitutionnel. Raquel Garrido de la France Insoumise nous le disait comme si finalement lui-même souhaitait que le Conseil constitutionnel retoque ce texte. Et puis on a entendu aussi notamment Marine Le Pen qui explique que le président de la République est méprisant, qu'il va de toute façon attiser une fois de plus la colère de la rue, que cette colère est légitime, a dit la présidente du Rassemblement National ici à l'Assemblée. Et puis forcément du côté de la droite et du Parti Socialiste, on les a interrogés puisque Emmanuel Macron dit qu'il faut élargir cette majorité, fin de non-recevoir du côté du Parti Socialiste, tout comme des Républicains. On voit donc que finalement, cette intervention, elle a déçu. Et en même temps, on ne s'en étonne pas forcément. Certains nous disaient que de toute façon, ils n'attendaient pas grand-chose de l'interview du président de la République.
Merci beaucoup et merci à Jean-Laurent Constantini pour la réalisation de ce duplex. Il n'y a pas de majorité alternative aujourd'hui. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron avant de poursuivre avec ses mots. Aujourd'hui, nous devons rebâtir, un appel du pied, bien sûr, à la droite, aux Républicains. Écoutez cet extrait.
Il faut avoir beaucoup d'estime et de respect pour de nombreux parlementaires qui sont venus en soutien de son texte. Ils n'étaient pas la totalité d'un parti. C'est pour ça que je dis que c'est dur de bâtir des coalitions. Oui. Mais il y a des individualités politiques, avec leurs convictions, qui sont prêtes à travailler avec les forces de la majorité. Et donc je souhaite que la Première ministre puisse bâtir justement cet élargissement de la majorité dans les semaines à venir et j'espère qu'elle y parviendra. Au-delà de cette...
Et dans la foulée, j'aimerais vous partager cette réaction sur Twitter d'Aurélien Pradier, juste après l'intervention présidentielle. Aurélien Pradier, qu'on pourrait qualifier de frondeur les Républicains aujourd'hui, et qui nous dit ceci. Hein, je vais avoir vraiment du mal à lire, peut-être que quelqu'un peut m'aider. Parce
vous
que
aidez si vous voulez, Nelly.
C'est très petit, allez-y, Gauthier.
Emmanuel Macron ne comprend pas, il ne comprend pas les fractures immenses de la nation, il ne comprend pas que son autosatisfaction est une provocation de plus. Ne rien changer, attendre, bidouiller, c'est jouer avec le feu.
Merci de m'avoir sauvé. Autant dire que ça va être compliqué dans ces conditions.
Bah, ça va être compliqué puisque, comme le dit Emmanuel Macron, il y a 19 députés qui ne voulaient pas voter ce texte et qui ont voté surtout la motion de censure. Il y a peut-être d'ailleurs plus de députés LR qui ne voulaient pas voter la réforme des retraites que 19. Après, certains avaient sans doute peur de perdre leur siège aussi en cas de dissolution. Donc effectivement, il y a eu hier une réunion au siège des Républicains où Éric Ciotti a pu constater qu'il y avait une énorme division au sein des Républicains. D'ailleurs, c'est intéressant de noter, il y avait eu des menaces d'exclusion qui oui. pesaient sur les députés LR qui votaient la censure. Elles n'ont pas été appliquées parce que virer 19 personnes dans un groupe qui compte 61 députés, c'est effectivement très compliqué. Donc Emmanuel Macron, il veut composer effectivement avec une partie des Républicains, mais on a bien vu que ça ne suffisait pas à faire passer un texte. Sinon, il n'aurait pas eu recours au 49-3. Et en plus, là, ça a marché. Enfin, ça aurait pu marcher sur la réforme des retraites. Ça n'a même pas fonctionné. Mais par exemple, sur l'immigration, on sait d'ores et déjà que ça ne marcherait pas du tout, même pas avec une partie des LR, puisqu'Éric Ciotti a d'ores et déjà annoncé que si ce texte arrivait à l'Assemblée nationale, il voterait contre. C'est une des raisons pour lesquelles ce texte est repoussé.
Louis Berger, je rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire. Si on en croit ce que nous dit Gauthier, ça va être un petit peu compliqué de ramener tout ce monde dans votre giron pour les textes à venir.
Non, mais personne n'a dit que c'était simple. Et si ça avait été simple, on ne serait pas en train d'en parler, y compris si on n'avait pas fait des erreurs de communication ou d'autres. Mais on pourrait.
Mais donc ça suppose un certain nombre de concessions.
Mais je note quand même à nouveau, je le disais avant la pause, qu'il y avait une dizaine de textes qui étaient passés. Là encore, c'était peut-être pas des textes aussi importants que tous les textes sont importants, mais en tout cas plus aussi visibles que celui des réformes des retraites qui sont passées grâce à des adhésions ou des non-oppositions des uns et des autres. Donc moi je note quand même que la droite de gouvernement a toujours appelé à cette réforme des retraites. Sur les 19, la question de l'exclusion, ça regarde les LR après tout, c'était non pas les 19 mais les 3 qui ont voté la censure, pas celle de Liot, mais celle des RN, ce qui n'était pas jamais arrivé dans la partie de gouvernement.
Même celle de Liot, je rappelle qu'Olivier Marleix avait dit que ceux qui votaient la motion de censure de Liot avaient vocation à siéger avec Liot plutôt qu'avec les Républicains.
Mais voter une motion de censure, en tout cas voter un texte du Rassemblement National, c'était jamais arrivé, ça pose question. Mais c'est à eux de la résoudre. Il y en a dans ceux qui n'ont pas voté la motion, un certain nombre qui sont proches de nous sur un certain nombre de sujets, et même s'ils ne partagent peut-être pas l'intégralité du programme ou en tout cas des idées que nous portons au groupe de Renaissance et à la majorité présidentielle, eh bien ils sont appelés évidemment à travailler avec nous. Et il faut le faire non seulement au LR, c'est peut-être ceux qui naturellement le feront peut-être le moins difficilement, mais il peut y en avoir aussi au sein du PS. Encore une fois, nous l'avons fait sur la loi sur les énergies renouvelables et d'autres textes, et c'est ça que les Français attendent de nous. Le Parlement continue ses travaux, ça résoudra pas tout, mais il faut que nous continuions dans cette.
Il est 16h31, on reprend le débat, mais je vous propose pour ceux qui ont raté le principal de l'actu aujourd'hui de retrouver Mathieu Devez, c'est la Minute Info.
Emmanuel Macron persiste et signe. Après 2 mois de manifestation, le chef de l'État réaffirme la nécessité de la réforme des retraites pour le pays. Lors d'un entretien d'une trentaine de minutes que vous avez pu suivre sur CNews, il épingle les oppositions. Selon Emmanuel Macron, leur projet, c'est le déficit. Un entretien présidentiel qui a fait bondir les syndicats alors qu'une 9e journée de grève et de mobilisation est prévue demain. Et à l'issue de cet entretien d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen s'est exprimée. Vous avez également pu suivre sa prise de parole sur CNews. Selon la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, Elisabeth Borne sort pulvérisée de cette séquence après le recours à l'article 49.3 de la Constitution et les motions de censure qui ont suivi. Et dans ce contexte, l'aviation civile demande d'annuler 30% des vols à Paris-Orly demain. Les contrôleurs aériens sont en grève contre la réforme des retraites. 20% des vols seront également supprimés au départ ou à l'arrivée de Marseille-Provence, Toulouse, Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry.
Judith Weintraub, pour revenir et pour rester un petit peu sur cette problématique des Républicains, que diriez-vous à leur sujet ? Qu'il y a une crispation, qu'il y a un schisme, qu'il y a un éclatement de cette famille politique aujourd'hui ?
Ils sont en déliquescence totale. On n'est plus du tout à la période où, comme vous le disiez à juste titre, les Républicains votaient majoritairement les textes proposés par l'exécutif. Je crois que Nicolas Sarkozy, à l'époque où il proposait carrément un pacte de gouvernement, avait fait le calcul, c'était 90% des textes. Hein, c'était l'année dernière. 90% des textes du gouvernement étaient approuvés par les Républicains. Là, on a vu quoi ? On a vu des gens, je pense notamment à Aurélien Pradi, vous avez dit poliment changer d'avis, tourner le dos à leur conviction d'hier sur l'âge de départ à la retraite pour équilibrer le système, pour faire de la surenchère à gauche. Il y a vraiment 19 députés, alors peut-être pas les 19, hein, il y a des nuances, mais certains d'entre eux, ceux qui ont voté là où les motion de censure qui ont largué les amarres. Par ailleurs, un groupe politique, c'est aussi l'affectio societatis, c'est-à-dire le vivre ensemble, hein, la capacité à se supporter, c'est terminé. Ils ne peuvent plus se voir en peinture. Je parle des deux fractions qui se sont opposées.
Ça veut dire qu'ils pourraient constituer un groupe à part. 19, a priori, ils sont suffisamment nombreux, s'il y avait une tentation.
Éventuellement, oui, mais ça veut dire surtout... Mais Emmanuel Macron le dit quasiment comme ça, d'ailleurs. Quand il répond à Édouard Philippe, il lui dit... Faire un accord de gouvernement, les accords de gouvernement ne sont pas possibles, ça veut dire qu'il y aura une tentative de débauchage individuel et pas simplement sur un texte ou sur un autre. Puisque ça, de toute façon, il y aura de moins en moins de textes à l'Assemblée. Mais comme pour donner quand même l'image d'un gouvernement qui ne se rétrécit pas sur une majorité de plus en plus étroite, il aurait intérêt à faire rentrer des gens.
Est-il une sorte de canard boiteux avant l'heure, Emmanuel Macron, aujourd'hui?
Aujourd'hui, en grande partie, c'est-à-dire qu'on voit mal, en effet, comment est-ce qu'on va pouvoir réformer. Et donc, comme on a du mal à voir comment est-ce qu'on peut réformer, on est un peu dans du Chirac post-2006, souvenez-vous, là, on parle beaucoup de CPE. On dit, ça pourrait être comme le CPE, retire sa loi. Mais lorsque Jacques Chirac retire la loi du CPE, eh bien, à ce moment-là, on rentre vraiment dans les canards boiteux. Il intronise quasiment, ou en tout cas, il cesse de s'opposer à l'intronisation de Nicolas Sarkozy comme candidat UMP en 2007, et il y a une forme de longue déliquescence du chiracisme. Là, Emmanuel Macron, évidemment, aura du mal à survivre à ça pendant 4 ans. Donc il va vouloir reprendre la main. Mais en effet, la coalition avec LR est en grande partie impossible. Pour revenir un peu sur ce que disait Judith sur LR, il faut se souvenir d'où vient LR. On a affaire à des députés qui sont des survivants. Ceux qui sont passés sont, en règle générale, plutôt issus de l'aile droite de LR. Donc pas les plus macro-compatibles. Qui plus est, eh bien, souvent, ceux qui ont voulu donner des gages, eh bien, ils se sont quand même retrouvés avec un candidat, LaREM, face à eux. Et donc, ils ont la certitude que, une alliance avec les macronistes, ce n'est pas forcément une alliance qui peut leur être profitable et qu'il peut y avoir eh bien, des coups fourrés, et que, deux, ils sont quand même capables de gagner contre les macronistes. Et donc, ce faisant, ce groupe-là, qui est aujourd'hui un groupe d'individus, beaucoup plus qu'un groupe politique structuré old school, eh bien, devient un groupe extrêmement difficile à tenir pour Olivier Marleix. Et du coup, il ne peut pas être un allié structurel pour Emmanuel Macron.
C'est un échec pour Olivier Marleix, parce que sinon, il aurait réussi à fournir les voix qui manquent à Elisabeth Borne. Et c'est aussi un échec pour Éric Ciotti, qui vient à peine de prendre les rênes du parti et qui est déjà désavoué par une partie de son groupe à l'Assemblée nationale. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ces députés font en fonction de leur circonscription, avec des électorats très différents. L'électorat d'Éric Ciotti, il est quasiment pour une réforme des retraites, si je caricature un petit peu, à 70 ans. Mais quand vous prenez l'électorat d'Aurélien Pradi ou de Pierre-Henri Dumont, vous regardez ces circonscriptions, Marine Le Pen est arrivée devant Emmanuel Macron au second tour, avec c'est un électorat très opposé à cette réforme des retraites. Donc chaque député, puisque effectivement ce sont des survivants, après le score très faible de Valérie Pécresse, même pas 5%, fait en fonction de son électorat dans sa circonscription,
dont je les suis.
Ne répond plus à la ligne du parti.
Cette interview a été regardée jusqu'au Sénat, hein, évidemment, avec Olivier Véran, qui a bien dû voler au secours du président de la République. Regardez.
À la crise démocratique qu'il a approfondie, à la crise politique qu'il a ouverte, il a répondu par quoi ? La perspective de nouveaux débauchages, sans doute les députés qui n'ont pas voté la motion de censure. Ça, c'est une indécence. En revanche, il n'a pas manqué de nous dire que la réforme des retraites serait appliquée sans délai. Vous voulez apaiser le pays ? Je le crois sincèrement. Mais il n'y a qu'une solution. Rendez aux Français les 2 ans de vie que vous leur volez.
J'étais député socialiste et vous et moi, nous avons eu le courage de soutenir en 2014 une réforme des retraites portée par le gouvernement socialiste auquel vous apparteniez. Je pourrais aussi vous rappeler qu'à l'époque, lorsque vous faisiez partie du gouvernement, il y a eu l'adoption d'un texte important, courageux, nécessaire pour l'économie de notre pays, adopté par un 49-3. Vous étiez au gouvernement, vous ne l'avez pas quitté. Vous avez sans doute la mémoire sélective, moi pas. Madame la sénatrice, il se trouve aussi qu'en écoutant votre question, j'ai l'impression que vous avez l'oreille sélective.
Ils ont besoin de...
Louis-Marguerite, à un moment, il a aussi dit des contestations, il y en a à chaque réforme des retraites. Comme si, voilà, c'était quelque chose qu'on avait complètement intégré, mais il a quand même rajouté de manière un petit peu perfide, et même en nombre supérieur. Sous-entendu, aujourd'hui, on ne se serait pas assez opposé dans la rue à cette contestation des retraites, ce qui fait que ça appuie un petit peu son propos, et ça le renforce dans sa volonté de passer absolument en force sur ce texte.
Non, mais je crois que vous interprétez mal.
Je ne suis pas sûr d'interpréter mal, mais enfin bon.
En tout cas, je ne l'interprète pas comme ça. D'abord, personne ne se satisfait des colères qui s'expriment et des violences qui sont, par ailleurs, la ligne rouge et qu'il faut dénoncer. Et autant il faut respecter le mouvement et les contestations, autant on ne peut pas accepter la violence. Non, je crois que si on avait pu pousser cette réforme, adopter cette réforme de façon moins crispée, comme on l'observe aujourd'hui, ça aurait été mieux. C'est évidemment l'option que nous aurions choisie. D'abord, on aurait préféré avoir un vote, comme vous savez. On a attendu le dernier moment pour s'apercevoir qu'il n'y avait sans doute pas de majorité pour, mais au même titre qu'il n'y a pas eu de majorité contre, puisque sinon ils auraient voté majoritairement la censure, ce qui n'a pas été le cas. Donc non, je crois que l'enjeu maintenant, c'est non seulement de continuer les travaux parlementaires, je note quand même que les sujets sur avoir moins de lois, d'abord, ce n'est pas nous qui décidons, parce que ce qui relève de la loi ou ce qui relève du décret, d'abord, c'est codifié. Alors il y a parfois des marges d'interprétation, mais donc il y a cela. Mais en revanche, c'est bien de vouloir, et il faut que cette responsabilité repose à la fois sur le gouvernement, comme sur les députés, non seulement la majorité bien sûr, mais aussi les autres, parce qu'on a tendance aussi à vouloir produire des PPL pour que chacun mette son nom dessus, on en est toujours tous très fiers, mais enfin voilà, il faut que les choses soient utiles. Il faut aussi qu'on soit serein sur notre capacité à expliquer aux Français, et surtout aller sur le terrain. C'est ça dont on a besoin, et des réponses concrètes. Les gens, en fait, à la fin, ils s'en fichent de savoir s'il y avait un remaniement ou autre, hein. Vraiment, c'est pas ce qui intéresse. Ce qu'ils veulent savoir, c'est s'il y aura des ouvertures de classe demain, et pas de fermeture d'école.
Un mot sur la suite, quand même, parce qu'on a compris maintenant qu'ils ne transigeraient pas. N'empêche, il reste encore certains leviers. Déjà, c'est entre les mains du Conseil constitutionnel. On verra si Laurent Fabius a aussi une marge de manœuvre, parce qu'on sait qu'il y a une inimitié entre ces deux hommes et que peut-être lui aussi a senti autrement la contestation du pays. Et puis, il va s'appuyer sur les textes et sur la loi pour aller chercher, fouiller ce qui ne va pas ou qui est contraire à l'esprit du texte, peut-être. Et puis, il y a aussi le référendum d'initiative partagée. J'aimerais quand même qu'on y revienne, Judith Vintraub.
Alors, le référendum d'initiative partagée, il donne lieu en ce moment à une course de vitesse parce qu'il ne peut pas avoir pour objet une loi qui a été adoptée et mise en œuvre la première année après l'adoption de la loi, on ne peut pas faire un référendum d'initiative partagée. Depuis, c'est normal, la Constitution ne peut pas organiser de conflit de légalité entre une loi qui vient d'être adoptée par le Parlement, fût-ce par le
Parlement. Donc on est sur du temps long.
Non, on est sur du temps long qui commence par une course de vitesse parce que, Benjamin
connaît
très bien les détails, il faudrait donc que la loi soit promulguée avant que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la légalité du référendum. C'est une question de jour, une question d'interprétation.
Oui, ça peut arriver, ça ?
Oui et non, c'est-à-dire que, je vais vous faire un peu de droit constit. Si je vous lis le considérant 7 de la décision de 2019 sur ADP. Par ailleurs, la date d'enregistrement de la saisine, elle, n'avait pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée. Donc le Conseil, il parle de quoi, là ? Il nous dit la date d'enregistrement de la saisine concernant le RIP, eh bien, ne visait pas à abroger une loi déjà promulguée. Il est déjà pris en compte, le RIP. Il a été transmis il y a deux matins au Conseil constitutionnel par Yael Braun-Pivet. Donc, on n'est pas à l'abri d'une évolution de la jurisprudence, mais si on reste uniquement à ce qui s'est fait sur ADP, théoriquement, c'est bon. Théoriquement, on a un RIP qui devrait être lancé sous réserve qu'il ne soit pas jugé en lui-même inconstitutionnel.
Alors, et après, comment ça se passe ?
Alors, il y a quand même quelques incertitudes, parce que ça pourrait avoir un coût financier, on pourrait avoir ce qu'on appelle un article 40, une irrecevabilité financière, mais admettons que tout soit validé, d'accord ? À ce moment-là, ça veut dire que pendant 9 mois, les syndicats, les partis politiques de gauche, voire de droite, vont devoir réunir 4 800 000 signatures. C'est énorme, parce que si on regarde en Italie, il faut 500 000 signatures pour lancer un RIC, ça a été fait pour ne jamais être utilisé. Néanmoins, 4 800 000 signatures, si tous les réseaux syndicaux, etc. s'y mettent, c'est pas tout à fait évident, ça ne marche pas. C'est faisable. Et ça veut dire.
Du corps électoral.
Voilà. Et ça veut dire, quoi qu'il arrive, que vous avez une campagne pour l'abrogation de la réforme des retraites pendant 9 mois. Ce qui, évidemment, pour le gouvernement, a un tout petit air d'enfer.
Mais si on s'en tient en sondage, les 94% d'actifs qui contestent, les 70% de Français qui contestent, normalement, le compte peut y être.
Le compte peut y être. Mais si vous regardez ce qui s'est passé sur ADP, on a quand même une plateforme extrêmement obscure, pas forcément facile d'accès. Donc, il faut vraiment aller chercher le signataire. Il faut l'aider.
Donc, c'est pas gagné. Il y avait déjà eu plus d'un million de signataires.
Il y avait eu un million de signataires.
Peu porteurs.
Mais si vous regardez, sur ADP, en fait, les réseaux de signataires sont liés à deux réseaux politiques, qui sont ceux de l'AFI et de LV. Pourquoi ? Parce que c'était les militants qui allaient démarcher et qui souvent faisait l'inscription. Donc, en réalité, il y a quand même une difficulté d'accès. Parce que...
Tout va être fonction de la méthode qui sera employée
exactement,
par ceux qui veulent absolument.
Exactement, mais là, il y a quand même des syndicats professionnels derrière, et donc ça peut passer.
On refait une courte pause, et puis on revient pour parler aussi, parce qu'il l'a beaucoup évoqué dans la fin de cette interview, les grands chantiers qui attendent la France. Il entend quand même réformer encore hein, sur un certain nombre de points, et puis il veut beaucoup travailler sur le travail, les salaires, mettre les entreprises aussi à contribution. Il sera question de santé et d'éducation, et aussi... je l'ai noté quelque part, l'ordre républicain, je crois, hein, rétablir l'ordre républicain.
Numéro 2 de ses propriétés.
La numéro 2, à tout à l'heure. Toujours avec mes invités pour commenter à nouveau l'interview d'Emmanuel Macron à 13h. Et c'est vrai que cette parole était très attendue, puisque depuis tout le début de cette séquence et de l'examen du texte par le Parlement, on n'avait pas du tout entendu le président de la République, qui avait laissé aller Elisabeth Borne et ses ministres au front. Lorsqu'il a été interrogé, puisqu'on a vu qu'il était droit dans ses bottes et qu'il avait l'intention de mener ce texte à son terme, sur sa responsabilité et sur la légitimité qu'il avait toujours auprès des Français, on l'a entendu dire « si les Français étaient tous mécontents, ils ne m'auraient pas réélu ». Je vous propose de réagir à ça, écoutez cet extrait.
Si les Français ne percevaient absolument pas et étaient totalement en colère, sans doute n'aurais-je pas été réélu il y a moins d'un an, ni une majorité relative il y a encore moins longtemps. Bon. Donc il y a des gens qui sont en colère, ça ne veut pas dire que tout va bien pour tout le monde. Il y a des choses qui marchent. Il ne faut pas qu'on regarde simplement ce qui ne marche pas. Mais nous venons d'une situation qui est reposée sur une forme d'illusion, et donc là, on réengage le pays vers son avenir. Et donc moi, je vais continuer d'avancer sur un cap qui est clair. Un, le plein emploi et la réindustrialisation. C'est la France de 2030. Nous devons redevenir une grande nation de recherche, d'innovation, de production.
Bon, Gauthier, ce n'est pas tout à fait vrai. Il semble avoir quand même largement oublié la notion de barrage.
Oui, il le reconnaissait le soir du second tour. Le soir du second tour, il reconnaît qu'il a été élu, notamment, pour faire barrage à Marine Le Pen et que donc il sera amené à amender ce sur quoi il a fait campagne. Alors, malheureusement, pour ceux qui ont voté pour lui au second tour, non par conviction, la seule mesure sur laquelle il a fait campagne, c'est cette fameuse réforme des retraites. Et d'ailleurs, il a commencé à l'amender puisqu'il proposait 65 ans et finalement, ça a été 64 ans pour espérer avoir le vote des Républicains avec la conclusion qu'on connaît. Mais il ne tenait pas du tout le même discours le soir du second tour en ayant conscience que de nombreux Français ont fait le choix du bulletin Emmanuel Macron pour faire barrage au Rassemblement National.
Louis Margueritte, ce qui signifie, en filigrane, qu'il n'avait pas quitus pour faire tout ce qu'il voulait derrière quand même.
Non, mais d'ailleurs, on n'a jamais quitus, puisque d'ailleurs, la preuve, il faut une majorité qui se dégage ou pas à l'Assemblée. Donc, et encore une fois, ça s'est produit 10 fois depuis le début de ce quinquennat. Et là, ça ne s'est pas produit. Enfin, ça s'est produit un peu par inversion, puisqu'il n'y a pas eu de vote de la motion de censure. Je note quand même que, bien sûr, qu'il y a des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour d'élection présidentielle, non pas par adhésion à la réforme des retraites, mais pour faire barrage à l'extrême droite. En effet, il y a des gens qui me le rappellent assez souvent. Mais je note quand même qu'aux élections législatives, il y a une majorité, certes relative, mais majorité quand même. Moi, il se trouve que j'en ai parlé pendant ma campagne. Il y a même quelqu'un, j'ai dû l'exprimer une fois sur ce plateau et sur d'autres plateaux, qui m'a dit qu'il était prêt à voter pour moi si et seulement si je ne votais pas la réforme des retraites. À l'époque, on ne savait même pas que ça allait être 64 ans avec les aménagements qui ont été faits pendant le texte. On savait que c'était 65 ans, mais dans une forme encore assez floue. Et moi, je lui ai dit, je l'ai même appelé à ne pas voter pour moi, en tout cas pas au premier tour. Et je lui ai dit, votez pour quelqu'un d'autre, ou blanc, ou que sais-je, parce que c'est aussi une honnêteté qu'on a vis-à-vis des électeurs et ceux sur quoi on s'engage. Donc je pense que c'était important, ça a été redit, y compris pendant la campagne législative au niveau national. On a d'ailleurs assez critiqué qu'elle n'aborde pas assez de sujets et en tout cas celui-là a été abordé. Donc je ne dis pas que ça donne quitus pour faire ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les gens, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas ceux qui nous parlent et qui nous expriment leur colère. Mais en revanche, on ne peut pas dire que ça n'avait pas été dit, y compris pendant la campagne législative.
Il y a une notion de déconnexion de président retranché aujourd'hui, Judith Vintraub.
Il y a surtout une notion de président qui n'a jamais été aussi impopulaire, qui est vraiment... même plus à son socle d'ailleurs, parce que son socle de premier tour s'est effrité étant donné les abysses d'impopularité dans lesquels il est tombé. Il est évidemment complètement isolé, il n'a plus de moyens d'action quand il dit « je vais agir par, je ne suis pas obligé de passer par la loi, je vais agir par décret », il risque de trouver face à lui un pays tout aussi éruptif. Parce qu'il n'y a pas que le véhicule légal qui compte. Il y a aussi la façon dont les gens vont l'accueillir. Or, pour le moment, j'ai l'impression que quoi qu'ils disent, y compris Je vais faire un règlement pour qu'il fasse beau 362 jours par an ou au contraire pour qu'il pleuve assez pour que la terre soit à peu revée. Et il aura une majorité contre.
Benjamin Morel, c'est toujours Jupiter aujourd'hui Emmanuel Macron ou c'est le roi nu?
En réalité, c'est un président qui montre qu'il est volontaire, etc., mais qui n'a quasiment plus aucune prise. Il n'a plus de prise sur sa majorité parlementaire, parce qu'elle est relative, elle est effritée. Et donc, il faut voir que le président de la République, ça fait bizarre en France, parce qu'on lui prête une capacité d'action énorme. Mais en réalité, en droit, il a très peu de pouvoir, sauf des pouvoirs d'exception, l'article 16, etc. Mais il a assez peu de pouvoir. Il n'a de pouvoir que parce qu'il a une majorité disciplinée et pléthorique derrière lui. Ce n'est plus le cas. Donc, sa capacité d'agir est limitée. De l'autre côté, eh bien, on a une crise économique, larvée. Et sur cette crise économique, parce que les taux remontent, etc., il n'a plus non plus vraiment de capacité d'action. Et c'est ça, je crois, la particularité de l'époque. On a un Emmanuel Macron qui veut donner le sentiment d'une puissance, mais qui en réalité, aujourd'hui, fondamentalement, profondément, est impuissant et souffre d'une fragilisation de sa légitimité. Souvenez-vous de Gérard Larcher durant la campagne. Il fait à l'époque une interview dans le Figaro, il dit « Cette élection qui va passer sous les radars posera un problème de légitimité ». À l'époque, tout le monde lui tombe dessus en disant « Oui, Gérard Larcher est quasiment un black bloc, il veut dynamiter le pays ». Sauf que non, il a raison, la légitimité, on ne peut pas la replier sur la légalité. Évidemment, le juriste va vous dire « Est légitime ce qui est légal ». Mais fondamentalement, c'est aussi l'adhésion et c'est aussi le sentiment que le pouvoir doit et peut agir. Et ça, aujourd'hui, dans une grande partie de la population, c'est plus si évident.
Il nous reste une minute. Je sais que vous allez retomber sur vos pieds, cher Gauthier, parce que vous avez déjà votre idée en tête. Mais quand même, on n'a pas évoqué le rapport avec Horizon. Les liens sont plus que tendus aussi avec cette formation.
Je voulais vous parler justement de la majorité qui a été reçue d'ailleurs hier à l'Élysée pour tenter de calmer les esprits, puisqu'on sait que de nombreux députés de la majorité, Horizon, Modem, Renaissance, ont été sonnés par l'usage de ce 49.3. Et vous avez raison, il y a des dissensions très fortes entre Horizon et Renaissance. Il y a eu des propositions d'Horizon rejetées par les députés Renaissance et vice-versa il y a à peine quelques semaines. Et effectivement, Benjamin en parlait tout à l'heure, l'image d'Elisabeth Borne avec les bancs de la majorité clairsemés derrière elle, alors que deux motions de censure, je ne sais pas si vous y étiez, monsieur le député, deux motions de censure étaient soumises aux voix, ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire également quelque chose quand vous avez des propos que Emmanuel Macron tient en privé à l'Élysée, qui sont rapportés dans la presse. Des propos, si on a un minimum de sens politique, on sent bien que ces propos vont lui nuire. Quand c'est victoire, que le mot employé par Emmanuel Macron qui se retrouve dans la presse pour parler des rejets des deux motions de censure, ou quand son allocution devant les députés sur la foule est enregistrée et divulguée auprès de la presse, on voit bien que même du côté de la majorité, certains veulent nuire au chef de l'État.
C'est quoi l'expression déjà ? Méfie-toi de tes amis, mes ennemis, je m'en charge. Il y a un peu de ça quand même, non ?
On peut quand même réagir, quand même.
En deux secondes, parce qu'on
en
va
deux secondes, il ne faut vraiment pas fantasmer. Qu'il y ait des marges d'amélioration, de progrès, de dialogue et d'échange, bien évidemment, il y a eu effectivement des sujets qu'on aurait pu mieux traiter les uns les autres, honnêtement, on est rassemblés, il y aurait eu toutes les voix si on avait été au vote, et ne fantasmons pas sur les uns et les autres, on va y arriver.
Merci à tous de m'avoir accompagné cet après-midi, c'est une émission très agréable à faire en votre compagnie. Dans un instant, je vous laisse entre les mains de Laurence Ferrari, c'est le début de Punchline, je vous retrouve demain, 15h30 sur l'antenne de CNews. Excellente soirée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club, with me, Maisie Williams. And each week, we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from, like, 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.